Le retour du fils prodigue. C'est aujourd'hui justement que nous commençons une période de carême. Nous ne devrions pas le faire de manière routinière, simplement parce que la liturgie de l'Église suit, année après année, un cycle fermé et que nous essayons d'y participer plus ou moins. C'est une affaire très sérieuse, car l'Église, ces jours-ci, nous dit la même chose, y compris avec les mêmes paroles que ce que Jésus a dit au début de sa prédication. Convertissez-vous et faites pénitence. Prenons vraiment au sérieux notre conversion. Le Saint-Père insiste là-dessus constamment. Il ne cesse de le dire et l'écrit même dans les documents importants de l'Église. Tous, nous devons nous convertir. En toute humilité, il fait remarquer que le pape lui-même doit se convertir. San José María, lui aussi, n'a eu de cesse de nous inculquer que nous devions également nous convertir, non une ou deux fois solennellement dans la vie, mais chaque jour, et ce, plusieurs fois pendant la journée. Car cette conversion est un retournement dans lequel nous nous tournons réellement vers lui, ne nous appuyant plus exclusivement sur notre rationalité, dépassant notre raison, nos humeurs, etc. Tout cela doit être surmonté. Nous devons vraiment nous orienter vers Dieu. C'est la conversion. San José María appelait cela le retour du fils prodigue vers le Père. Nous tous aussi, nous devons parcourir ce chemin. Nous qui ne nous laissons pas déterminer seulement par nos passions et sentiments, mais aussi par la seule rationalité. Ce n'est pas la seule chose qui existe. Le juste vivra par la foi. Et la foi signifie être au-dessus de la raison, non contre la raison. Ce qui est contre la raison, le chrétien ne peut l'accepter, mais celle-ci doit être dépassée. Nous devons vivre de la foi. Un prêtre aussi doit encore et toujours vivre de la foi, c'est-à-dire nous devons nous convertir chaque jour. Nous pensons parfois que le réel est ce que nous ressentons. C'est une grande illusion. L'essentiel dans la vie d'une créature, ce n'est pas ce que nous comprenons, éprouvons, voyons ou entendons. L'essentiel, c'est l'invisible, l'imperceptible. Ce n'est pas seulement le plus important, mais aussi le plus réel. Il nous faut nous convertir, faire demi-tour et essayer de vivre chaque jour de la foi. On croit devoir inventer quelque chose de nouveau pour sortir de nos habitudes, pour réellement vivre de la foi. Mais il ne s'agit pas d'une nouveauté absolue, mais avant tout de l'actualité. Hier ne compte plus. Il faut que je me décide aujourd'hui à vivre de la foi. Non, copie. Maintenant, je commence. C'est la réalité de l'existence. Car chaque instant est une nouveauté. Je n'ai pas à inventer quelque chose de nouveau. Dieu est toujours nouveau. Nous devenons toujours plus vieux, plus usés, plus habitués, moins intéressants. Mais Dieu, l'infini, est toujours nouveau et fait toutes choses nouvelles. Cela explique la vitalité des saints. Ils vivent de la foi, dans un rapport à Dieu toujours nouveau, et cela les rend vivants. Ainsi commençons-nous à nouveau, frais, le temps du carême. Aujourd'hui, maintenant, je commence, et c'est faire pénitence, car il nous faut consacrer sans cesse l'ordre détruit. Nous aurions dû toujours vivre de foi, mais nous sommes des rationalités, des êtres de sentiments. Nous avons des inclinations et des antipathies qui nous déterminent quotidiennement. Il nous faut commencer à nouveau. L'Église parle toujours de l'erreur de l'âge. Ce qui est vieux est une erreur, parce que la vérité est actualité, présentialité de Dieu. Dieu est toujours, il est le seul qui soit présent. Et quand nous disons que nous nous mettons en présence de Dieu, c'est une façon de parler bien intentionnée. Mais nous ne pouvons pas nous mettre en sa présence. Il est présent. Je n'ai qu'à m'ouvrir. Et c'est déjà de la pénitence. Car nous inclinons tous à nous refermer autour du moi. Je veux me sauver, me guérir, me sanctifier. Mais je m'occupe bien trop de mon propre moi. Faire exploser cette concentration sur le moi, c'est de la pénitence. Comme aussi de dire, toi Seigneur, tu n'es pas seulement mon sauveur, mon refuge, ma force, mon amour. Tu es mon tout. Sans toi, je perds tout. Avec toi, j'ai tout. Comme le remarquait aussi Sainte Thérèse, rien ne manque à celui qui possède Dieu. Solo Dios basta. Seul Dieu suffit. Le Dieu présent nous fait prendre conscience que nous sommes dans le temps et usés par le temps. Nous sommes temporels. Mais lui n'a rien à voir avec le temps. Et c'est pourquoi il est complètement là. Il est l'unique, le vrai, mon Seigneur et mon Dieu. En ce sens, nous devons nous convertir parce que nous embrassons beaucoup de choses qui sont fugaces. Même avec la meilleure volonté, même avec des intentions surnaturelles, nous sommes cependant souvent dépendants de choses, personnes et situations historiques, éphémères, transitoires. Il nous faut nous libérer. C'est de la pénitence. Les anciens maîtres de la spiritualité chrétienne résumaient cela en deux mots. S'abandonner. Il ne s'agit pas de réaliser des prouesses et entreprises particulières, mais il faut que je m'abandonne. C'est-à-dire que je lui fasse confiance, que j'accepte ce qu'il m'envoie. La vie, l'instant. Il nous faut devenir plus réceptifs. Nos préjugés, souhaits, désirs doivent passer à l'arrière-plan. Là, contre, il s'agit d'assentir à la réalité. Saint Paul dit que le Christ est le oui à Dieu, à sa gouvernance du monde, à sa conduite de ma vie comme je l'ai reçue. Je suis entièrement comblée. Si j'embrasse cela et pas mes rêves, si je ne nourris pas l'une et l'autre fois des projets, des rêves tout mesquins, mais au contraire si je lui dis oui, alors je serai réellement un autre Christ. Saint José Maria le disait toujours, « Laissez Dieu agir. C'est lui qui fait le plus important, ce qui est déterminant. Il veut nous sanctifier. Si nous le voulons aussi, laissons-le agir. » La pénitence a aussi le sens de freiner et d'éliminer nos passions, nos inclinations, nos aversions. Le sens de la mortification de tout ce qui n'est pas de Dieu. Sans aucun doute, la pénitence a aussi ce sens. Mais la pénitence n'est pas que cette négativité, retenir et modérer, contenir, restreinte. Stimuler, mettre en mouvement ce qui sommeille en moi peut être une pénitence tout aussi dure. Je porte la responsabilité des capacités et talents que Dieu m'a donnés. Ce peut être une pénitence, non pas seulement de renoncer par amour de Dieu et du prochain à quelque chose de désiré, mais aussi de prendre le risque de s'exposer, de me taire alors que je pourrais briller en société, de prendre la parole à haute voix, même si cela me mène à devoir nager à contre-courant de l'opinion publique, cette terrible dictatrice. S'engager peut-être une pénitence, pas seulement se retirer ou oser confesser sa foi, sa fidélité à l'Église, quand le monde mondanise. Jean le Baptiste a fait pénitence, qui ne voulait ni manger ni boire, mais Jésus aussi qui mangeait et buvait en compagnie des pécheurs. Cette pénitence qui parfois nous aiguillonne et parfois nous freine est importante pour rendre la personnalité harmonieuse. Sans une certaine ascèse, la personnalité n'aura aucun poids et aucun équilibre. Si nous considérons cela d'un point de vue religieux et pas simplement psychologique, cette pénitence fait aussi que nous devenons de plus en plus libres, intérieurement de plus en plus indépendants d'automatismes pulsionnels, de plus en plus équilibrés. Surtout, cette pénitence ou ascèse a le sens du point de vue religieux, qu'à celui de cultiver la terre. Elle rend notre terre plus réceptive à la grâce de Dieu. La pénitence reçoit une plus grande qualité quand nous ne regardons pas tant à notre perfection, à notre capacité de rendement, à notre santé, qu'à notre prochain, quand nous renonçons aussi à de petites choses, afin de rendre la vie plus agréable aux autres, quand je limite mes désirs, mes plans, afin que les autres soient plus heureux, plus libres. Agissant ainsi, nous pourrons surmonter notre égocentrisme et même mourir pour l'ami ou l'ennemi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, comme Jésus lui-même l'a dit. Dans la vie courante, nous ne parlons pas de grandes prouesses, du martyr, mais du réel martyr des amants qui sacrifient tout pour l'aimer. Il est important que je supporte ma migraine en silence, qu'elle ne soit pas une charge pour ma famille. Le dépassement de soi le plus important est celui qui m'est prescrit par l'amour du prochain. Par exemple, quand je me retire afin que l'autre soit libre, quand je me tais afin que les autres puissent parler. Ce qui est déterminant sera toujours la motivation de notre renoncement à soi-même, qui n'est jamais de la haine. Je n'ai pas le droit de haïr mon moi, parce que ce moi est créature de Dieu, parce qu'il porte en soi une image de Dieu unique. C'est la motivation qui fait la valeur de mes actes de pénitence, qui justifie une frustration. Comme le disait le psychiatre viennois Viktor Frankl, elle peut faire d'une frustration une prouesse, une œuvre de grande valeur. D'où chacun comprendra qu'un geste de tendresse, une attention par amour de ce monde, offre beaucoup plus de bien que tous les actes et paroles des politiciens, philosophes et savants réunis. Ne cessons pas de reconnaître que dans maints domaines de notre vie religieuse, la pénitence déterminante et la plus importante ne sera jamais celle que j'ai inventée et accomplie. La plus importante, celle qui me purifie, qui donne étendue et profondeur à mon moi, qui élargit des étroitesses, sera la pénitence que Dieu nous impose, non seulement sous la forme de maladies, contrariétés, mais aussi au moyen des désagréments quotidiens de la vie. Les enfants sont assez souvent des casse-pieds. Sans cesse, être patient, prendre sur soi, dire oui, faire preuve d'acceptation quand la froideur nous touche et que nous aurions justement attendu de la tendresse. Les croix que Dieu nous impose offrent les meilleurs actes de pénitence et ce serait folie si nous nous efforcions de trouver quelque chose pour nous mortifier et récusions ou n'estimions pas la volonté de Dieu. L'époux ou l'épouse peut être aussi une croix, parce que lui ou elle est une autre personne et vivre avec un autre est toujours la crucifixion de l'égoïsme, en dépit de toutes les idéalisations. L'échec d'une entreprise appréciée, la dépréciation qu'amis, connaissance, personne aimée, autorité manifestent face à ce que nous réalisons, les difficultés économiques, le désarroi dans notre mère église, l'infidélité d'un ami, la rébellion de nos propres enfants, le mal-être intérieur sans cause et l'obscurcissement de notre foi à certains moments où il semble que tout vacille autour de nous, le ridicule d'un faux pas personnel, la mort d'un être aimé, ce sont des croix que nous n'avons pas choisies, ni cherchées, ni inventées, mais que Dieu fait peser sur nous afin que nous fassions don de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous devons nous décider une nouvelle fois à dire à Dieu ce « oui » dans le Christ et avec le Christ, et à bannir de notre bouche toute parole de rébellion ou d'impatience dans la vie ordinaire. Je ne le méritais pas. C'est malheur, malchance, coup du sort, absurdité. Tout a un sens, même si nous ne pouvons pas le comprendre. M'abandonner, c'est la meilleure pénitence. Ensuite viendra la résurrection. Marie, qui a dit « Je suis la servante du Seigneur », nous aidera pour que nous aussi, nous incarnions ces paroles pour notre sainteté et pour le bonheur de tous ceux qui vivent et cheminent avec nous. L'amour comme don de soi. Non seulement toute la philosophie moderne, non seulement l'enseignement de notre grand pape Jean-Paul II, non seulement la psychologie et l'anthropologie de notre époque qui ont surmonté tant de déterminismes le répètent l'une et l'autre fois, l'être humain en tant qu'existence ouverte vit dans la mesure où il reste ouvert. Tout rétrécissement, tout repliement sur le moi, toute fermeture de sa propre personne est perte en substance vitale, état maladif, un être en reste vis-à-vis de sa propre existence, de sa propre personne, qui devrait s'ouvrir, s'élargir, se développer de plus en plus. C'est pourquoi l'amour comme don de soi est condition préalable de la vie, présupposé de la santé, droiture, justice au sens le plus large. Mais l'amour, qu'est-ce que cela veut dire? On entend par là habituellement sécurité, accueil de l'inclination de l'autre, chaleur de l'étreinte maternelle, plaisir de l'auto-confirmation et de l'auto-affirmation sensible et émotionnelle. D'après ce qu'en dit la psychologie classique, celui qui n'a pas fait cette expérience dans la première enfance resterait pour toujours blessé, sous-développé et condamné à souffrir. Disons-le sans embâge, combien de personnalités dans ce monde, dans le domaine de l'art, de la science, de la société, combien de grands amoureux, de héros de la charité, de saints, ont eu une enfance malheureuse, sevrée d'amour et très frustrée. Car il est exact que l'homme ne peut vivre sans amour, mais seulement au sens propre du mot « amour », non au sens de l'éros avec tout son poids d'égoïsme, mais au sens du don de soi. Qui ne connaît pas l'amour et le rabaisse au niveau du simple recevoir, qui fait de l'amour une nécessité et se laisse emporter par le désir, qui considère le monde à travers l'étroitesse de l'égoïsme, sera toujours déçu et frustré. Car l'on ne peut saisir une main fermée, la prendre, on ne trouve aucun accès à un cœur endurci. On ne peut trouver aucun accord de sentiments et de pensées quand ses sentiments et ses pensées ne tournent qu'autour de son propre moi et bien-être, de sa propre réalisation. Des êtres qui se plaignent sans cesse parce que leurs semblables manquent d'aménité et ne leur prêtent pas attention, qui exercent constamment sur tous une sorte de chantage affectif « si vous ne m'aimez pas, je m'effondre », de tels êtres montrent une conception complètement erronée de l'amour. Car l'amour authentique, qui effectivement est une condition préalable de la vie, ne consiste pas à exiger, mais à donner de façon immédiate, gratuite, inconditionnelle. Il est inspiration et expiration, ouverture de l'existence comme approbation de la réalité, comme amitié qui, comme le dit saint Paul, espère tout, croit tout, supporte tout, et qui n'exige ni ne récuse la correspondance. Un désintéressement total n'existe pas en ce monde. L'amour authentique consiste toujours à donner et à recevoir, mais la disponibilité immédiate, la patience sans limite, la disposition à ne pas renoncer au don de soi, la capacité à ne pas se laisser aller à la désillusion malgré tous les comportements bornés et sans égard, font partie de la manière saine, aimante, ample de l'existence humaine en ce monde. Car ce n'est qu'ainsi qu'on peut comprendre le principe que l'homme est créé pour l'amour, le don de soi. Il a été créé à l'image et ressemblance de Dieu, et Dieu est amour qui se donne sans restriction. À l'intérieur de Dieu, cet amour est don d'une personne à l'autre. Et voilà que cet amour déborde dans la création, la rédemption, l'envoi de l'Esprit-Saint. Tout ce qui est n'est que parce que Dieu est amour et parce qu'il le conserve dans l'être. Merle, aigle, forêt, constellation des étoiles, être humain, tout existe parce que Dieu l'aime et parce que nous sommes une image de Dieu, image à la ressemblance de cet amour qui se donne. Et c'est pourquoi l'homme est ce qu'il doit être d'après l'invention de Dieu quand il incarne le don de soi. Ce n'est qu'ainsi qu'il se réalise, qu'il conserve et affermit sa propre identité. Ce don de soi dans l'amour qui constitue l'homme doit être la règle de vie. Il ne peut être limité à certaines personnes. Il doit être illimité, tout comme Dieu est infini, pure ouverture au projet de Dieu. Il crie « Que ta volonté se fasse ». Il est pure ouverture au monde, à qui l'on doit dispenser son service propre, ouverture à son semblable, que l'on doit aussi rencontrer comme créature de Dieu, prêt en tout cas à se donner. Jésus, en tant que seul homme parfait, montre au mieux cette ouverture envers le Père. Il ne fait que ce que le Père veut et ne dit que ce que lui dit le Père, tout en étant ouvert au monde. Il est le oui au monde et aux hommes, qui ne sont plus serviteurs mais amis. Quelle ouverture du Christ qui va jusqu'au total renoncement de soi et même jusqu'à la mort sur la croix, jusqu'au don de la dernière goutte de sang. Il n'exige rien, il donne tout, il ne condamne personne. Il pardonne et sauve tous. Comme il nous a donné sa vie et que par le baptême chaque chrétien est un autre Christ, et même que chacun d'entre nous prolonge la vie du Christ en ce monde de façon unique, il nous fallait recevoir du Christ ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Non pas seulement ceux qui vous aiment, mais aussi l'étranger, vos ennemis. Par là meurt tout égoïsme. Par là on perd sa propre vie et il la sauve ainsi indirectement. Par là on fait l'expérience de ce que signifie le bonheur sur terre. L'amour humain, l'amour dit de bienveillance, d'amitié, l'amour non commercial, je te donne et tu me donnes, tend toujours à l'extase, au transport hors de soi, au délire. Le binôme le suggère bien, amans, amens, aimant qui est hors de soi. Être hors de soi, se perdre soi-même, ceux-là, les vrais amants, le connaissent aussi au niveau de la passion. Cet amour humain devient alors une image de l'amour de Dieu qui nous a aimés le premier, alors que nous étions encore pécheurs. Un amour qui ne recule pas devant l'ingratitude, qui a toujours à l'esprit le bonheur de l'autre et qui trouve toutes les finesses du don de soi pour ne pas s'imposer. L'amour qui, d'après San José Maria, vainc le mal par l'abondance de bien. Cette saine attitude, cette forme d'existence humaine en ce monde, n'est jamais pure spontanéité. Il la faut conquérir par une lutte décidée contre l'égoïsme, par une espérance contre toute espérance, par un se ressaisir après chaque frustration, par une générosité renouvelée, par la souffrance à cause du désir toujours émergent, par l'acceptation du risque et de la peur que tout don implique. Jamais elle n'affirmera « J'ai tout essayé en vain ». Non, l'amour ne cessera jamais. L'amour conjugal aussi doit être de la sorte. Les conjoints dans le mariage ne sont pas demandeurs mais acteurs. Ils doivent s'efforcer de tendre tout au long de leur vie vers ce don de soi personnel qui, devenu le sacrement de l'amour du Christ pour l'Église, ne peut échapper au poids du mystère. On se meut toujours dans ce clair-obscur du mystère dans l'amour conjugal qui possède ce pouvoir incroyable d'atteindre Dieu au travers de l'amour envers le conjoint et même d'aimer Dieu. Celui qui, par une grâce particulière, renonce à cette médiation humaine de l'amour divin, offrant directement à Dieu son don total, n'aura pas un moindre combat à mener pour renouveler constamment ce don et dépasser l'égoïsme. Ce sont les célibataires qui sont appelés par Dieu à un don de l'obscurité en suspens. Seule la foi dans l'amour de Dieu pour chacun, en cette providence divine qui écrit droit avec des lignes courbes, seule cette foi rend possible de reconnaître et de réaliser l'appel universel à la sainteté, au don de soi par amour, dans cette forme de vie solitaire, anonyme, sans plainte ni mine de martyr, mais en une sérénité détendue. Cette foi en l'amour miséricordieux, paternel et maternel de Dieu envers chacun, et la détermination de correspondre à cet amour sont indispensables pour pouvoir réaliser avec constance, en y trouvant son bonheur, toute forme de vie vécue par amour et pour l'amour au travers des peines et des souffrances. Personne, prêtre ou religieux, marié ou célibataire, ne peut réaliser cette vocation à un don total dans l'amour s'il n'implore quotidiennement la grâce de cette foi. Toi seul es tout mon bonheur. Il nous faut aussi pouvoir le vivre. Aucune autre condition, motivation, aucune autre sécurité ou espérance n'est suffisante. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, car le cœur de l'homme, le fond de la personne, est fait pour Dieu, et ce n'est qu'auprès de lui et qu'en lui qu'il trouve son repos, comme l'affirme saint Augustin dans ses Confessions. Bouleversé par les pleurs, pénétré d'allégresse. Cela peut paraître paradoxal, presque contradictoire, mais la liturgie de l'Église ne cesse de qualifier la passion du Christ de béata, de bienheureuse. Car il n'y a effectivement pas de temps plus beau que le temps de la passion, que ces deux dernières semaines avant Pâques. Non seulement dans la merveilleuse commémoration liturgique, mais aussi dans l'événement même de la passion. Au cœur du déroulement obscur et douloureux de l'histoire des souffrances du Christ résonnent des accords si délicats et si élevés qu'ils éveillent en nous aussi bien serment de cœur qu'allégresse. Il en va effectivement, comme le dit une antique et célèbre séquence de l'Église, du défi ultime, du duel le plus dur, incompréhensible, que se livrent la vie et la mort. Mors et vitas, duello, conflixere mirando. et nous savons maintenant à l'avance qui vaincra brillamment, même au prix d'innombrables injures, humiliations, moqueries et blessures, du sang versé, de la mort. La bataille commence à l'étonnement muet du ciel et devant la large indifférence de la terre. Les hommes n'en prennent pas connaissance, à l'exception des apôtres, peureux et qui prennent la fuite, comme le note sobrement l'évangéliste Marc. Et l'abandonnant, ils s'enfuirent tous. Et hormis le petit groupe, des femmes vaillantes mais impuissantes. Les uns fuient, les autres se lamentent et pleurent sans pouvoir rien faire. Le monde perçoit difficilement ce qui s'annonce. On le saura plus tard par les récits des apôtres et des évangélistes. L'on apprend ici quelque chose du plus incompréhensible, du plus indicible, qui reste justement incompréhensible et indicible, même si nous cessons de lire et de considérer ces récits. Au cours des siècles, aucun autre drame n'a été aussi souvent représenté et récité. Aucune épopée n'a été aussi souvent chantée. Aucun amour prodigue n'a été aussi profondément ressenti. La tragédie grecque n'a pas été si belle. Aucun récit héroïque d'aventure et de combat, de passion et de mort n'a jamais dépassé la narration de ces quatre simples évangélistes. La musique la plus sublime, la plus digne de la grandeur divine et la plus aimée du cœur humain a été inspirée justement par ces textes sacrés. Les arts plastiques les plus géniaux se sont sans cesse efforcés comme éperdument de peindre sur la toile, de graver dans la pierre, de sculpter dans le bois ces scènes fameuses, les personnages et les événements. La passion a toujours fasciné, bouleversé. Elle commence entre crainte et douleur, mais l'on perçoit cependant immédiatement dans les airs comme un envol d'anges, des hymnes mélodieuses, des rayons de lumière d'une très grande splendeur. Patio Domini Nostri Jesu Christi. Jamais la voix du Christ n'a été si ferme, si lapidaire. Jamais auparavant elle n'a saisi le cœur de l'homme si tendrement et bouleversé si profondément le cœur de Dieu comme en ces jours précédant immédiatement la passion. Jamais jusqu'alors Jésus n'avait parlé de la vie avec une telle force et tant de délicatesse humaine. Les évangiles de ces jours-ci le décrivent de façon extrêmement vivante. L'atmosphère devient de plus en plus sombre, mauvaise, violente. Les rencontres de Jésus avec les personnes, les grands prêtres, les pharisiens et les scribes tournent à la confrontation. Les discussions au dur conflit. La conspiration contre lui devient de plus en plus menaçante. Et plus la croix se fait proche, plus intense brille le divin. Jamais auparavant la vie n'est apparue aussi prodigieuse comme à la veille et au moment de la mort. Tout en lui touche au sommet de la sagesse et de la bonté. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Parlait-il de l'amour? Alors c'était d'un amour illimité, inexistant jusqu'alors, allant jusqu'à l'extrême, à l'ultime limite, à l'accomplissement. Parlait-il de notre union à Dieu? Alors c'était d'une union immédiate, intime, inconcevable envers Dieu et l'homme. Il parle au Père et cependant nous entendons toujours stupéfaits cette voix. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, ainsi qu'il soit un en nous. Voulut-il ensuite nous laisser un souvenir? Alors ce fut la merveille de l'Eucharistie. Essaya-t-il ensuite de dire adieu aux siens? Il le fit alors dans le long discours pendant la scène, le testament du Fils de Dieu qui se fit homme pour nous les hommes et pour notre salut et que les hommes bientôt assassineraient. Cette mort qu'il endurera de la main des hommes apportera le salut définitif aux hommes. Parlait-il de nous alors? Il ne savait plus comment il devait nous nommer. Sarment de sa vigne, amis, enfants, petits-enfants, mon autre moi. Parlait-il de son Père et de ses divines richesses? Alors c'était pour nous dire que Dieu est aussi notre Père et que ses trésors sont notre bien. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ce qu'il a dit en ces jours-là, en ces ultimes heures, c'est notre vie et le résumé de notre foi, le résumé de son histoire. Tout était orienté vers cette heure, comme il l'a dit lui-même. Mais c'est pour cela que je suis arrivée à cette heure. Ainsi, ce temps de la Passion n'est-il pas seulement un résumé de la venue du Christ en ce monde, mais aussi celui de notre vie, de notre histoire personnelle? La Passion est l'événement principal, l'œuvre de Dieu par excellence, qui dépasse celle de la création, car il s'agit d'une nouvelle création qui n'est pas salie ni obscurcie par les péchés comme la première, mais qui est irradiée justement par l'élimination du péché, engendrant l'élévation, la divination de l'homme qui dépasse infiniment la restauration de l'état originel. Si nous considérons en ces jours la Passion, naît aussitôt en nous un sentiment délicat d'union au Père et en même temps d'union à tous les hommes de la terre. Un sentiment qui est le battement même du cœur de Jésus-Christ et qu'il nous a légué expressément dans son testament, de sorte que nous puissions nous reconnaître les uns les autres. Par la considération de la Passion, nous savons qui nous sommes, qui est Dieu et ce que le Sauveur du monde non seulement a fait, mais ce qu'il est en son être. C'est le manuel par excellence. Là, tout nous est dit de ce qu'est Dieu. L'homme, l'histoire et le monde. Tout homme est alors infiniment précieux, car chaque homme, tous les hommes sans exception, a été racheté au prix de tout le sang du Fils de Dieu. Rien ne pourrait faire mieux reconnaître le prix de chaque personne que cette forme de pardon, de rédemption et d'élévation. Rien ne pourrait mieux nous unir les uns les autres que ce salut et cette libération de la mort éternelle. Nous nous trouvons là combien désemparés, dépassés, bouleversés par le bruit et la puissance du mensonge, abasourdis par ce mensonge du monde qui s'impose surtout par le mensonge des prêtres, des docs, des gardiens sourcilleux de la loi. Le mensonge règne avec toutes ses ruses et indélicatesses. De l'intérieur de l'Église surgissent les serpents et scorpions les plus venimeux, au lieu des dispensateurs du pain, de la vérité et de l'amour. Cela, ils le font toujours sous les habits propres de la défense du peuple de Dieu et même des droits de Dieu. Mais c'est au fond pour assurer leur propre volonté d'avoir raison toujours et partout. Mais la vérité, celle qui libère vraiment, qui libère avant tout du péché et de la mort, il n'y en a qu'une, le Christ lui-même. « Je suis la vérité. » Le Christ qui se donne et est livré au bourreau, tel un agneau muet. Cette vérité même a été assassinée. C'est pourquoi l'on n'a pas le droit de jouer avec la vérité. Nous l'avons reçue du ministère pétrinien, pur et non altéré, ruisselante du sang du Christ, et nous devons la garder et la transmettre pure et non altérée. Erreur et confusion ne peuvent nous laisser indifférents. C'est toujours la même Passion que nous souffrons, de la part de ce Christ mourant qui a dit « Je suis la vérité et la vie ». Il ne peut y avoir aucune réconciliation entre la vérité et le mensonge, entre les ténèbres et la lumière. La vérité meurt et nous ne pourrons plus détourner le regard, faire des combines, accepter des compromis, vendre une demi-vérité pour vérité entière. Il y a en effet un devoir, une inflexibilité qui est sainte parce que nous avons à conserver et à administrer la vérité et que cette vérité ne nous appartient pas, mais elle vient de Dieu. Elle est ce Christ mourant. Si quelqu'un cédait là-dessus, ce serait un signe qu'il n'est pas dans la vérité et qu'il n'affirme que son propre moi prétentieux. Mais comme le Christ meurt par amour pour tous les hommes, il nous faut pouvoir l'unir lui, la vérité, avec l'amour envers les hommes qui sont ses assassins, aussi difficile que cela puisse paraître à l'instant du crime. Si nous n'arrivons pas à unir la vérité et l'amour, il y a le risque de dévoyer la doctrine même du Christ, qui est dans sa totalité une doctrine de l'amour. Personne ne devrait ignorer que l'homme n'est pas seulement composé de raison, que le cœur et les passions ne rendent pas uniquement aveugle, mais qu'il voit parfois plus loin et plus finement que la raison. Si nous blessons le prochain parce qu'il n'est pas dans la vérité, alors nous ne manquons pas seulement à la charité, mais nous courons le risque que ce prochain s'éloigne de plus en plus de la vérité. C'est la raison pour laquelle Saint José Maria disait « N'employez jamais la violence ni physique ni morale. La violence dans le domaine de la proclamation de la vérité chrétienne est incompréhensible. On vainc l'erreur avec la prière, la grâce de Dieu, les arguments dépassionnés, l'amour. » Il disait à une autre occasion « Vous pouvez être sûr que si quelqu'un maltraite son prochain parce qu'il est dans l'erreur, alors je ressens le désir de me placer à côté de celui qui est dans l'erreur pour partager son sort par amour de Dieu. Comment pourrait-on contraindre quelqu'un à adhérer à la vérité si Jésus, la vérité même, s'est livré à la mort pour tous ceux qui l'ont renié, bafoué? Quel jour allons-nous vivre maintenant avant Pâques? Nous expérimentons l'obscurité du mensonge et de la violence et en même temps la clarté surhumaine d'un amour qui meurt pour l'ami et l'ennemi, qui absorbe l'obscurité dans sa lumière et la dissout. Nous rencontrons peur et bonheur unis. Aucun autre temps n'est si ébranlé par les peurs et si imprégné de joie, si gagné par la mort et si bellement irradié par le triomphe de la vie, si plein de tristesse et si plein d'un bonheur nuptial. L'hiver est passé et les premières lueurs de l'éternel printemps nous réveillent du sommeil de la tristesse. Aux derniers sanglots et soupirs pour la mort de celui qui est tout notre amour, se joint déjà sans faille le premier coup de trompette de la résurrection. Dieu est mort et vit par de là la mort. Et le péché d'échouer et la mort de mourir. Nous ne sommes plus capables de distinguer les pleurs du repentir des pleurs de la joie. Marie, Notre-Dame des sept douleurs, se tient sous la croix entre Jésus et nous, puisse-t-elle nous unir à lui définitivement.